Oui, bonjour, c'est Jean à Niort. Donc pour les corps qu'on a retrouvés en mer, hein, c'est bien des passagers du vol AF447. Hein. Oui, enfin je veux dire, c'est pour des crèves la faim dont la barque a coulé pendant qu'ils essayaient d'aller vers les Canaries. Hein. Oui, sinon on les aurait refoutu à l'eau. Hein. Faut pas déconner non plus. Hein. Allez, salut.
Oui, tout le monde dit là. La gauche a perdu, les écolos ont gagné, la droite a ultra gagné, mais ils ont tous perdu parce qu'ils sont quand même que à 40% de votants. Bon, il y a 60% d'abstention. À mon avis, tous ceux qui se sont abstenus leur ont dit merde, et puis voilà quoi.
Salut, c'est Frédéric. Aujourd'hui, on est vendredi 5 juin. C'est la sortie du film de Yann Arthus-Bertrand, Home. Ce film, qui est gratuit, etc., etc., est financé par le groupe PPR, aka Pinot Printemps La Redoute. Alors, j'ai une question à 1000 euros. C'est simple, c'est quelle est l'empreinte écologique du groupe PPR ? J'ai une question à 2000 euros, c'est quelle est l'empreinte humaine du groupe PPR, qui actuellement est en train de virer la moitié des salariés des FNAC ? Enfin, la question bonus à 3000 euros est la suivante. C'est est-ce que les effets positifs de ce film, qui se veut philanthropique et écologiste, est-ce que ces effets positifs seront supérieurs aux effets négatifs que produit lui-même le groupe PPR à longueur d'année depuis son existence? Voilà. Bon courage. Ciao.
Bonjour à notre chère équipe de Paris, de là-bas si j'y suis. Alors, chers AMG du Sud-Ouest, nous ne sommes pas réunis depuis un mois, mais le 9, mardi 9, le paysage politique aura sûrement bougé. Alors, à vos vélos, jambes et patins à roulettes, pour rejoindre à Bayonne le Trinquet Saint-André à partir de 20h30, mardi 9.
Je ne sais pas ce qu'il faut faire, je ne sais pas ce qu'il faut faire aux gens. On est en train de décimer la France et les acquis sociaux depuis 50 ans dans tous les sens. C'est en train d'être ratiboisé, exterminé, volatilisé. Et ce sont eux qui font le meilleur score aux européennes. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ?
En pleine crise du libéralisme, les droites européennes progressent en Europe. Pour expliquer ce résultat, je ne vois guère que le syndrome de Stockholm. Vous savez, ce sentiment si particulier qui finit par unir le geôlier et ses victimes. C'était Pascal Dumont.
Oui, salut Daniel. Ben écoute, c'est un appel au secours que je lance là. C'est Eric du Creusot. Eh bien voilà, notre entreprise de transport aux messageries à Torcy dans le 71 à Saône-et-Loire a fermé ses portes le 17 mars 2009 suite à la reprise successive de deux patrons voyous dont le dernier est en prison et l'autre devrait suivre. 71 personnes sont restées sur le carreau. Reste nous, les 9 salariés protégés dont le licenciement avait été refusé par l'inspection du travail courant mai. Les AGS, le fonds d'indemnisation des salaires, nous prévient qu'à partir du 1er mai, ils ne régleraient plus nos salaires. Donc on se retrouve sans ressources. On ne peut faire valoir nos droits aux assédiques n'étant pas licenciés. On ne peut pas travailler, sinon on est considéré comme démissionnaire et on perd tout. Primes de licenciement, mois de préavis, etc. On ne sait plus quoi faire. Les factures vont arriver, nous sommes sans ressources. Et cela risque de durer plusieurs mois. J'espère que des gens entendront notre appel à l'aide et nous conseilleront.
Bonjour, voilà, je ne suis pas très douée en maths et je pense que dans l'entourage de Daniel Mermet, il y a des gens compétents. Donc je voudrais qu'on nous renseigne sur ce que représente 28% de 40%, tant en pourcentage qu'en nombre d'électeurs. Parce que depuis hier, on nous serine que c'est un aval à la politique de Nicolas Sarkozy. Or moi, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait ça, 28% de 40%. Donc voilà, j'aimerais bien être informée là-dessus. Et puis, si c'est ce que je pense, est-ce que les journalistes vont faire leur boulot, c'est-à-dire répondre à ces gens qui pavoisent que c'est pas tout à fait ce qu'ils pensent. Et puis, j'aimerais bien qu'on commande davantage aussi ces 60% d'abstention, parce que franchement, c'est grave. Et puis, il y a aussi quelque chose qui me choque beaucoup. Bon, nous, on a pas été très bon, mais en Italie, Berlusconi, 2% de plus que d'habitude. C'est effarant. Moi, ça me... Je sais pas. Je suis déprimée aujourd'hui. Voilà, bonne journée à tous. Au revoir.
Allô, bonjour, ici Jean Jordan du Morbihan. Voilà, j'ai fait un petit calcul et je me suis rendu compte que, à cause des abstentions, un Français, un peu plus d'un Français sur 10 a voté UMP. Voilà, alors je me fais beaucoup de soucis pour la démocratie. Hein, parce que après l'UMP, les autres font moins d'un Français sur 10. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Au revoir.
Bonjour, bonjour, merci à tous, merci pour tous ces messages. Merci d'abord aux AMG de Poitiers, de Niort, de Montcoutan, rencontrés ce week-end à samedi et dimanche. Merci à tous, merci pour tout. Aujourd'hui, le Monde Diplomatique, chaque mois, vous le savez, on se retrouve avec l'équipe du mensuel Le Monde Diplomatique, avec évidemment, entre autres, des commentaires sur sur les calculs que vous avez commencé à faire là, les calculettes sont sorties voilà, sur les élections européennes et sur ces absents qui auraient toujours tort, nous a-t-on dit ce matin sur France Inter, quel est le sens de ces abstentions, de cette abstention massive. Je voudrais donner une précision pour concernant cet auditeur Eric du Creusot qui est dans une situation difficile. Il a laissé un numéro de téléphone pour ceux qui pourraient lui donner un coup de main, leur donner des conseils, etc. Ils ont l'air assez perdus, effectivement. Alors notez ce numéro de téléphone. 06 82 85 51 16. 06 82 85 51 16. C'est les salariés de cette entreprise de transport qui sont, dont les emplois sont plus que menacés. Alors, aujourd'hui, donc, le diplôme, mais auparavant, je voudrais vous faire part de notre tristesse en constatant que dans ce pays, la générosité est bien mal considéré. Ce matin, lundi 8 juin, le Conseil d'État a prononcé l'annulation des élections municipales de mars 2008 à Corbeil-Essonne. Le maire UMP de Corbeil-Essonne, M. Serge Dassault, a été déclaré inéligible pour un an en raison de dons d'argent d'une ampleur significative de la part du maire, à destination des habitants de la commune. Voilà quelqu'un qui aide ses administrés, ses compatriotes, voilà comment il est remercié par le Conseil d'État qui l'a déclaré ce matin inéligible. Et le Conseil d'État a précisé que si l'ampleur des dons d'argent dont est accusé le sénateur maire, qui est la 7e fortune de France, eh bien, si cette somme ne peut être déterminée, je cite, « les faits ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin et à vicier les résultats ». Vous vous souvenez peut-être qu'il y avait un écart de 170 voix, en effet. Alors évidemment, Monsieur Dassault est furieux, outré, blessé comme un animal blessé, et il a dénoncé ce jugement, je cite, « inique, scandaleux et politique ». Voilà. Et pour Serge Dassault, c'est très clair, c'est un coup des socialistes. Or, le 6 mars 2008, lors des élections municipales, là-bas, si j'y suis, avait diffusé un reportage comportant des témoignages sur les étranges pratiques du patron du Figaro, dont voici, chers AMG, un extrait.
Bonjour, je m'appelle Agra Guinordine, ex-animateur à la ville de Corbeil-Essonne pendant 10 ans, sur le quartier de Montconseil.
Ex-animateur, pourquoi
Ex-animateur, pourquoi? Parce que mon directeur a fait un bon de commande. Il a pris le bon de commande de la ville et il a fait son mariage avec. Ben, ceux qui se sont tus, ça monte en grade. Ceux qui parlent comme moi, on leur fait fin de contrat. Il n'y a que du clientélisme. On vient à la mairie, on demande à voir M. Dassault. M. Dassault n'est pas là. On voit son directeur de cabinet. M. Lebigre, sacré M. Lebigre. C'est pas pour rien qu'on lui a mis une belle châtaigne dans son jardin. Il a vu Noël deux fois, M. Lebigre.
Il s'est fait taper dans son jardin.
Il s'est fait taper dans son jardin avec les menottes. Ça lui a fait très 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 bien.
Pourquoi on l'a tapé?
Parce qu'il a dû promettre quelque chose, à mon avis. Quand on promet des choses, les jeunes, maintenant, on leur fait plus. Il a promis quelque chose et puis les jeunes ne l'ont pas donné. Ben il a dit, bon, on va directement à la source. Mais voilà, c'est du clientélisme. C'est-à-dire que nous, les forces vives, on pose un projet, c'est pas accepté. Derrière, ça met la pression, on a tout. Ça fait depuis 10 ans. Il y en a qui sont partis dans plusieurs villes avec des 40 000 euros, des mallettes. Ça marche à la pression, ça va en vacances.
Et la pression, on la met comment?
La pression, ça va là-bas. Ou ça va balancer certaines choses, ça va taper, ça va crever des pneus. Ça va brûler le centre commercial de mon conseil, ça attaque la pharmacie. On n'a qu'une seule pharmacie à mon conseil pour les personnes âgées. On casse une fois, bah les gars, calmez-vous. On va casser le chinois, le Bangkok, là. Après, il faut négocier. On négocie. Bon, on se calme. On envoie quelqu'un qui se dit, moi, je suis rassembleur de tous ces jeunes du quartier. En fait, il est même pas rassembleur. Il est aussi corrompu que eux. Il prend son enveloppe, il partage avec les petits, il partage lui. Et puis, bye bye, au revoir. Mais bon, moi, je dirais pour ça, monsieur Dassault, on me dit toujours, c'est un monsieur bien, 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 mais il a plein de piranhas autour. On me dit à chaque fois, c'est ça. Eh ben, enlève tes piranhas, arrête de leur donner des petits bouts de pain, et puis construis une équipe. Et puis,
ah, voilà. Vous voulez quand même garder Dassault?
Ah non, non, je garderai pas Dassault, moi. Monsieur Dassault, il propose des glaces à la fraise, ils sont tous là, les vendus. Comme on dit, il y a les vendus, il y a les pourris. Il y en a pas un qui connaît pas le numéro de monsieur Dassault, quand même, c'est un milliardaire, tout le monde a son numéro. Là, moi, je l'ai.
Franchement, c'est pas sérieux. Vous êtes complètement désinformés. C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. On vit dans un monde réel et vous vivez dans la fiction.
Et voilà donc un extrait de ce reportage du 6 mars 2008 et un reportage qui avait un peu heurté la sensibilité de Serge Dassault au point qu'il a engagé des poursuites en justice contre la base J'y suis, contre les reporters de la base J'y suis, Dila Tebi et Pascal Pascariello. Vous vous souvenez, Pascal Pascariello l'avait été un petit peu secoué lors de ce reportage, et poursuite également contre votre serviteur qui a été mis en examen pour avoir diffusé ces témoignages qui aujourd'hui, pris en compte par le Conseil d'État, valent à monsieur Dassault quelques déboires, si bien que demain dans la base Si j'y suis, eh bien on rediffusera cette émission du 6 mars 2008. Ça vaut quand même la peine de revenir un petit peu en arrière et faire preuve d'un certain esprit de suite. Donc aujourd'hui une heure avec l'équipe du Monde Diplomatique. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, j'y suis, au 01-56-40-37-37, 01-56-40-37-37.
Bonjour Daniel, bonjour à tous. J'ai entendu comme tout le monde le résultat des élections. J'ai eu beaucoup de mal hier à France Inter à entendre le nombre d'abstentionnistes. Alors j'ai fait en tirant les chiffres du Monde, j'ai fait un petit calcul rectificatif, une simple règle de 3 ramenant au nombre des inscrits. Et ça donne des pourcentages assez époustouflants. Ça donne 11,14% des inscrits pour l'UMP, 6,68% pour le PS, 3,38% des inscrits pour le Modem, 6,44% des inscrits pour Europe Écologie, 2,5% pour le Front National et 2,58% pour le Front de Gauche. Voilà, le calcul est exact, c'est irréfutable, et les gens qui en tirent des conclusions à la radio apparaissent d'un coup un peu comme des guignols. La majorité des électeurs a choisi la pêche à la ligne, et moi je trouve que bien malin, qui sait ce qu'ils auraient voté, et ce qu'ils voteront demain. C'était Gérard, Donnel la Reposte. Salut.
Oui, bonjour à tous. Après une nuit de travail à l'hôpital, voilà. Je suis assommé par les résultats et surtout, je suis assommé par les commentaires des journalistes qui me déçoivent de plus en plus. Voilà, M. Guetta vient de dire que les 56% d'abstention en moyenne en Europe, comme ils sont absents, les absents ont toujours tort, bien sûr. Alors ça, moi, je ne suis pas d'accord. La question fondamentale qui devrait se poser, c'est où est la démocratie? C'est ça. La question de notre époque, c'est ça, c'est la démocratie. Un mot magnifique, mais c'est quoi la démocratie à notre époque, hein? Puisque de toute façon, ceux qui sont élus ne représentent pas la majorité des gens. Bisous à tous, au revoir.
J'ai remarqué que on n'a absolument pas parlé des dom-toms. Voilà, il y a quelques mois, c'était l'ébrasement là-bas, c'était la révolution, et puis là, ce soir, rien sur les dom-toms, quoi. Donc bravo les journalistes. Bravo les hommes politiques, quoi. Rien ne change, rien ne bouge. Et c'est bien triste, voilà. Aïe, Coluche.
Bonjour les amis du repère d'Aix-en-Provence. Cours Mirabeau en allant vers la rotonde au festival Bar. Hein. Voici le thème choisi pour le repère du mardi 9 juin 2009, existe-t-il des fondamentaux de la démocratie que le peuple lui-même ne peut pas remettre en cause? Voilà.
Tu sais quoi, Daniel? Je viens de retrouver un papier par terre qui traînait, qui dépassait du lit. Une feuille d'un bloc de petite taille que j'avais arraché au bloc et sur laquelle j'avais griffonné un message que j'avais laissé le vendredi 13 février. Alors c'est rigolo la coïncidence parce que je lis les idées là qui étaient notées. Le vendredi 13 février, je t'avais recommandé d'annuler ton émission parce que faire une émission un vendredi 13, ça porte malheur. Et alors je te disais notamment, si tu respectes pas la malédiction, si tu maintiens l'émission un vendredi 13, t'étonne pas après si la gauche perd les prochaines élections. Mais tu vois, j'avais raison. Voilà. Salut.
Voilà. Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec l'équipe du monde diplomatique. Pas si diplomatique que ça.
Flight number 2. Arriving from New York.
Voilà, on se retrouve avec le numéro du monde diplomatique du mois de juin et on va parler de ce qu'il n'y a pas dans le monde diplomatique du mois de juin, c'est-à-dire l'Europe, il en est largement question quand même dans ce numéro, mais pas les résultats des élections, puisque c'était hier et que la France entière, l'Europe entière, est secouée, bouleversée par ces résultats. On va commencer par la réaction de qui veut bien, Serge Halimi, par exemple.
Oui, moi je note dans l'éditorial de ce mois-ci qu'on est effectivement face à un paradoxe puisque les pouvoirs du Parlement européen augmentent et que le taux d'abstention ne cesse de monter. On en a eu une nouvelle confirmation et il y a dans certains cas des situations tout à fait étonnantes, pour ne pas dire effarantes, un taux d'abstention de 80% en Slovaquie et une abstention qui frappe en particulier les catégories populaires. Parce que quand on dit qu'en France il y a 60% d'abstention, c'est vrai. Mais il faut voir que lorsqu'on s'intéresse en particulier aux victimes de la crise, ce sont ceux qui sont le moins susceptibles de s'être déplacés hier pour faire part de leur choix concernant le Parlement européen. En d'autres termes, ceux-là ne se soucient même plus d'élire des représentants au Parlement européen. Il y a par exemple 25% d'écart entre le taux de participation d'un quartier bourgeois de Paris comme le 5e arrondissement, 58% de participation, et le taux de participation en Seine-Saint-Denis, 33% de participation. Donc tous les résultats, on a beaucoup commenté les résultats, et je pense que Anne-Cécile reviendra là-dessus, mais doivent être appréciés à l'aune de cette abstention massive. Quelle est la représentativité d'un tel scrutin? L'UMP a obtenu 40% de 28% des voix, c'est-à-dire environ 10% des électeurs potentiels. Et bon, on ne va pas faire les calculs pour les autres listes, ce serait vraiment trop cruel. Donc on sourit un peu en entendant sur votre antenne Bernard Guetta qui tire de ces résultats, de cette désertion massive des urnes presque partout en Europe, lorsqu'il s'agit d'élire des députés européens, l'idée qu'il existe bien un sentiment général européen. Oui, le sentiment général européen, c'est de ne pas participer aux élections européennes. Donc c'est tout de même un formidable paradoxe que de dire, vous voyez bien, il y a une communauté européenne qui existe au lendemain du scrutin. Le sentiment général, c'est le désintérêt par rapport à ces enjeux européens. Et je pense qu'au-delà de cela, évidemment, le résultat pour ceux qui ont voté, c'est, comme le diront, j'imagine, Antoine Schwartz et François Denor, que l'Europe sociale n'aura pas lieu. Elle est encore moins susceptible d'avoir lieu, puisque à l'issue de ce scrutin, la droite triomphe et parfois l'extrême droite. Les sociodémocrates et les sociolibéraux sont laminés. La gauche radicale est encore affaiblie. Si je voulais juste terminer sur un paradoxe extraordinaire de la représentativité ou de l'absence de représentativité des scrutins politiques, nous allons avoir au Parlement européen 14 élus écologistes sur 72, alors que nous avons 4 députés écologistes sur 577 à l'Assemblée nationale. Nous allons avoir un parti socialiste qui contrôle aujourd'hui toutes les régions de France, sauf une, alors qu'il n'a obtenu hier que 16% des voix. Donc je dirais que Ce scrutin doit quand même être apprécié à l'aune de cette participation très faible, pour ne pas dire de cette désertion massive, et qu'il traduit une victoire politique par défaut, celle de la droite européenne et des libéraux, dont les idées sont pourtant en faillite. Et comme on évoquera tout à l'heure la chose, je dois dire que l'autre paradoxe, c'est que aujourd'hui, les États-Unis sont plus à gauche que l'Europe. Ce qui est tout de même un cas de figure relativement inédit depuis une trentaine d'années.
Ça, on va parler du virage pro-états-unien du monde diplomatique dans un instant. Mais Anne-Cécile, vous aviez dit, moi je vais parler de l'abstention, mais Serge vient de le faire. Qu'est-ce que vous avez à dire de plus?
Je voudrais ajouter deux, trois petites choses. La première, c'est que on ne peut pas vraiment dire, du moins on n'est pas sûr que l'Europe n'intéresse pas les gens, parce qu'on a quand même le souvenir de la campagne du 29 mai 2005, où les gens se sont mobilisés pendant des mois, ont lu un traité abscon et un peu con, et ils ont posé des questions, ils sont mêlés des choses. Donc, je ne suis pas sûre, moi, qu'il y ait un désintérêt pour la construction européenne. En revanche, le cadre dans lequel se déroulent les élections pose problème et peut expliquer une abstention aussi forte.
Entre-temps, il y a eu Lisbonne. Entre-temps, il y a eu Lisbonne, qui a été une correction de cette erreur faite par les Français, le 29 mai 2005, ils s'étaient un peu égarés, les veaux étaient un peu sortis du pré, mais on les a vite ramenés avec le traité de Lisbonne, et c'est peut-être ça aussi qui explique cette duperie, cette tromperie, explique peut-être un certain désintérêt, non ?
Certainement, je veux dire, les gens n'ont pas forcément envie de tendre l'autre joue. On a méprisé leur vote le 29 mai, on leur demande de retourner voter, c'est pas très motivant. Mais je voudrais aussi souligner deux choses. Moi, ce qui m'a frappé dans ces élections, c'est que on a eu tous les partis politiques, tous, qui sont allés à cette élection et qui ont fait campagne pour aller voter avec l'Élysée, avec Barroso. Et dans le même temps, ils nous disaient non à l'Europe de Barroso. Donc ils se sont trouvés dans une contradiction phénoménale, tous unis pour dire on va aller voter. Et deuxième chose qui est frappante, c'est qu'il y a eu pour la première fois, à mon sens, un mouvement pour le boycott de ces élections. Et un boycott politique, disant que aller voter à ces élections, c'était légitimer des institutions européennes qui ne sont pas par nature démocratiques, et donc légitimer ces institutions européennes, c'est quelque part un peu enterrer la démocratie. Or, qu'est-ce qu'on a vu hier ? On a eu les représentants minoritaires, ultra-minoritaires du « faut aller voter » et aucun représentant du parti qui a gagné, c'est-à-dire le parti de l'abstention. Or, il suffit d'aller 5 minutes sur Internet pour trouver plusieurs sites où des gens ont politiquement appelé à l'abstention. Et donc, on est dans un théâtre d'ombre où on commande des résultats qui n'ont aucun sens. Serge Halimi rappelait tout à l'heure que l'UMP a peut-être fait 29%, mais ça n'est que 12% des inscrits. Cohn-Bendit, ça doit faire 6% des inscrits. Le Front de Gauche, 2% des inscrits. Donc, on commande quelque chose qui n'a pas beaucoup de sens, alors que le vrai phénomène intéressant, c'est l'abstention. Et au fond, quel sens donner à cette abstention ? Sans doute, et c'était déjà le cas à mon avis le 29 mai 2005, la contestation politique d'un système institutionnel au niveau européen et au niveau national qui ne permet plus aux gens de s'exprimer. Ils sont face à une offre politique qui ne leur convient pas, et la seule façon qu'ils ont de s'y opposer, c'est de ne pas aller voter parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Et les partis politiques, au lieu de remettre en cause les institutions de la Ve République, par exemple, ou de remettre en cause le schéma institutionnel européen qui est par nature non démocratique, eh bien, ils vont à cette élection au risque, pour un certain nombre d'entre eux, de l'incohérence idéologique. Alors que certainement, la leçon, comme d'ailleurs, je pense, qu'on a commis une erreur d'analyse sur le 29 mai 2005, on a dit c'est un nom de gauche. Je crois que le 29 mai 2005 n'est ni de droite ni de gauche. C'est l'affirmation de la souveraineté populaire. Les Français ont simplement voulu dire on en a marre qu'on nous dise notre destin, on veut que notre avis soit pris en compte, on veut retrouver la maîtrise du jeu. Et évidemment...
Mais ça, c'est pas exclusif aux Français. C'est pas exclusif aux Français dans beaucoup de pays européens, surtout avec cette crise financière qui frappe un certain nombre de pays qui profitaient. Je pense à l'Irlande, par exemple, mais on peut parler du Portugal ou d'autres pays ou d'autres régions qui ont profité de l'Europe par des financements, simplement. Leur sentiment européen était dû à ces financements. Mais la crise financière frappant ces pays, le sentiment européen s'en trouve d'autant plus atténué.
Oui, on retrouve ce phénomène dans toute l'Europe, y compris dans les pays d'Europe centrale et orientale dont on nous avait dit qu'ils étaient euro-enthousiastes, en fait ceux qui battent les records d'abstention. On le retrouve aussi en Allemagne, pays considéré comme très attaché à la construction européenne. Et l'abstention, phénomène très curieux, l'abstention augmente même en Belgique, où le vote est obligatoire. Donc, je sais pas comment font les gens, ils doivent trouver des mots d'excuses pour pas y aller. Mais c'est dire que ce pays, qui est par ailleurs très européen, puisqu'ils ont pas d'État, faut le dire en passant, sauf leur respect, eux-mêmes ne...
Ils ont quand même un roi, hein.
Voilà, ils ont un roi. Ils ne vont pas voter. Mais tout ça, si on ne prend pas en compte, si on ne réfléchit pas à l'abstention, on se prépare des lendemains difficiles. Parce qu'il y a un appel, depuis des années, depuis le 21 avril 2002, le 29 mai 2005. Là, il y a encore l'abstention hier. Il y a un appel des gens pour qu'on refonde la démocratie. Mais les partis préfèrent continuer à jouer dans leur marigot en ne prenant surtout pas en compte l'impératif, l'urgence absolue aujourd'hui, c'est changer les règles du jeu politique. Sinon, on va continuer avec un fossé entre les élus et les représentés, et avec des partis, des petits partis qui vont tenter de reconstruire la gauche ou le gaullisme ou je ne sais pas trop quoi, et qui seront condamnés par le jeu à la marginalité ou à des alliances qui contredisent les projets qu'ils sont censés défendre.
Il y a un papier dans ce numéro du Diplo de juin de Frédéric Lordon qui dit, Frédéric dit, l'Europe est morte, elle ne le sait pas encore, quoi. Et il raconte comment la crise financière a vu chaque État se débrouiller avec le financement de le refinancement des banques sans du tout tenir compte des instructions, voire même des choses qui ont été votées et agréées à Lisbonne. Donc, les structures européennes, là, n'ont pas beaucoup d'effets.
Non seulement sans en tenir compte, mais en les violant avec la plus grande insouciance, puisque le déficit budgétaire, au moment de Maastricht, ça devait être 3%, qu'on va atteindre 6, 8% dans certains pays. Évidemment, on atteint 13% aux États-Unis, donc c'est un record. La dette ne devait pas dépasser 60% du PNB. On est déjà à plus de 70% en France et on va augmenter un peu partout à une vitesse faramineuse. Donc cette Europe dont on nous avait expliqué qu'elle avait pour préalable le respect d'un certain nombre de règles financières, a compris face à l'urgence que ces règles financières étaient absurdes et a été la première à les violer.
Alors comment ça a commencé ? Ça, on pourrait dire, voilà, c'est une dérive de l'Europe. Or, dans ce numéro du Diplo, il y a un papier de François Denord et Antoine Schwartz qui nous disent, ben non, ça date pas d'hier, cette histoire, ça a un peu commencé de travers. L'Europe sociale, avec des hymnes et des appels à la fraternité, c'est très beau, on est très bouleversé par tout ça, mais si on vous suit, au moins dans ce papier, c'était mal parti, l'Europe. Antoine, François, pardon.
Ce qu'on a voulu montrer, c'est que y a toute une mythologie de l'Europe avec ses grands héros, ses Jean Monnet, ses pères fondateurs, Schuman, etc. Une Europe qu'on présente volontiers comme au service de grands idéaux, l'humanisme, la paix, etc. Mais que dès qu'on se penche un petit peu sur le concret de la construction européenne, c'est une autre histoire qu'on voit apparaître, celle d'une construction politique qui a essentiellement pour but d'un côté de restaurer le libre-échange à l'échelle du continent et de l'autre côté d'arrimer les pays d'Europe occidentale dans une alliance diplomatique et stratégique avec les États-Unis. Donc l'Europe sociale, dont on parle perpétuellement, paraît un vœu pieux dans cet ensemble-là. L'Europe sociale, on la renvoie toujours à plus tard, mais d'emblée, si on a construit une Europe, c'est avant tout pour créer une zone de libre commerce et une alliance militaire.
Ça, je me souviens de texte de Bourdieu rêvant, militant pour une Europe des syndicats, une Europe... Là, ce qu'on voit dans les résultats qu'on a aujourd'hui, dans toute la presse, on se soucie absolument pas de ce qui se passe ailleurs, quoi. On est dans l'ignorance la plus complète de la culture des autres pays. Là, on a des destructions massives d'emplois, par exemple, à travers le monde entier, mais enfin, notamment à travers l'Europe. On sait pas du tout ce qui se passe chez nos voisins, sur le plan social et sur le plan des luttes syndicales. Il y a, de temps à autre, un petit rapprochement avec la frontière allemande ou à la frontière belge, mais c'est toujours de courte durée.
Oui, c'est vrai, hier soir, on avait vraiment le sentiment que le reste de l'Europe n'existait pas dans l'analyse de ces résultats. Et en dehors de l'abstention sur lequel on a beaucoup insisté, l'autre fait marquant, c'est quand même la victoire de la droite partout en Europe. Hein, c'est une victoire très paradoxale, puisqu'on on aurait pu penser que plus que jamais, cette Europe-là devrait être discréditée, hein, du fait de la crise financière et des drames sociaux que l'on connaît un peu partout. Et pourtant, on va sans doute avoir très bientôt la reconduction de Barroso, du président de la Commission européenne, dont on annonce déjà qu'il va refaire un nouveau mandat, ce qui est quand même un pied de nez, dans le fond, à tous ceux qui défendent une autre Europe. Donc la droite est victorieuse partout, mais la gauche, elle-même, est en crise un peu partout.
Anne-Cécile ?
La difficulté des petits partis de gauche à percer tient peut-être aussi au fait que certains d'entre eux ont été des acteurs de la période dont on sort, où la gauche était au pouvoir et où elle a signé des traités, je pense par exemple en France, le Parti communiste, Jean-Luc Mélenchon, ils étaient ministres quand on a signé la stratégie de Lisbonne en 2000 qui privatise les services publics européens. Donc peut-être qu'il y a un petit doute de la part de l'électeur sur la crédibilité de ces partis qui ne font à aucun moment, jamais la moindre autocritique. Et l'autre chose, c'est que quand on regarde leur programme, il y a énormément de contradictions, y compris sur l'Europe. Et parce que ils sont un conglomérat qui pense nécessaire tactiquement, mais les contradictions sont très importantes. Hein. Vous avez dans les nouveaux partis de gauche qui ont été créés des gens qui sont fédéralistes, des autres qui sont pour l'État-nation. Il y en a qui sont communautaristes, d'autres qui sont soi-disant républicains, etc. Donc on refonde sans vraiment approfondir les vraies lignes de clivage politique. Et c'est pour ça que sans doute ces partis ont des difficultés à percer. Sans compter qu'ils sont en plus dans des contradictions. Aller au Parlement européen, ça n'a absolument aucune conséquence sur les traités. Le Parlement européen n'a aucun pouvoir pour renégocier les traités. Donc on a eu des gens uniquement pour avoir des élus qui sont allés à une élection, ce qui ne leur donne absolument aucun pouvoir pour faire ce qu'ils prétendent défendre. Donc l'électeur finit par se rendre compte de ça, et la seule question qui n'est jamais posée, c'est la question des règles du jeu politique. Ces gens, ils vont aux élections, j'ai eu l'occasion d'écrire dans Le Monde diplomatique le mois dernier, ils se précipitent pour avoir des élus avant d'avoir un programme. Et donc, ils continuent à jouer à un jeu qui ne peut que les rendre leur message peu clair, les réduire au rôle de marginal, ou bien les contraindre à des alliances qui vont encore brouiller les pistes.
D'autres commentaires ?
Moi, je pense qu'en tout cas, il faut se garder d'être trop optimiste, parce que si on insiste souvent sur le fait que la Commission aujourd'hui bafoue les traités elle-même, elle le fait quand même d'abord à la demande des États, et ensuite tout en prévenant que ce sera de manière temporaire. Et si elle le fait à la demande de certains États, les règles du jeu continuent à fonctionner par ailleurs. Un bon exemple, c'est le mois de novembre-décembre dernier, on a la Commission, et en tout cas la commissaire à la concurrence, Nelly Kroes, qui a laissé les États soutenir les banques, et donc recourir à des aides d'État, et parallèlement, elle a fait fermer, ou en tout cas lancer la fermeture, des chantiers navals de Gdansk en Pologne, précisément parce qu'ils vivaient grâce à des aides d'État. Donc on a quand même un jeu à deux niveaux, entre d'un côté des banques qu'on peut sauver, qu'on peut recapitaliser, etc., et de l'autre côté des entreprises et des travailleurs polonais dont on n'a pas grand-chose à faire. Donc les règles de la concurrence, en tout cas pour un certain nombre de personnes, elles continuent à s'appliquer.
Thank you.
Je sais ce que tu penses. C'est 6 fois qu'il a tiré ou c'est 5 seulement? Si tu veux savoir, dans tout ce bordel, j'ai pas très bien compté non plus. Mais c'est un 44 Magnum, le plus puissant soufflant qu'il y ait au monde, un calibre à vous arracher toute la cervelle. Tu dois te poser qu'une question. Est-ce que je tente ma chance? Vas-y, tu la tentes ou pas?
Alors là, pour le coup, c'est bel et bien dans le numéro du mois de juin du Diplo, un article sur Clint Eastwood. Alors, il est très populaire, tout le monde l'aime, sauf Philippe Persson, qui se demande si Clint Eastwood a vraiment changé, parce qu'on se souvient, jadis, et il apparaissait plutôt comme quelqu'un d'un petit peu réac sur les bords, les critiques un peu radicaux le trouvaient facho même, et puis avec le temps, ben voilà, il s'est arrangé, il est devenu une sorte d'humaniste formidable. Ben c'est pas votre point de vue.
En fait, c'est plutôt les autres qui ont changé que lui. J'explique que la critique a tendance à voir dans Clint Eastwood ce qu'il n'est pas. Quand apparaît Clint Eastwood en tant que vedette, c'est avec l'inspecteur Harry en 1972. Alors l'inspecteur Harry est un flic radical, un flic californien qui a des méthodes expéditives. Et donc, on est idéologiquement dans une période plutôt, même aux États-Unis, où les idées 68-art de hippie triomphent. Et donc, ça apparaît comme une espèce de retour. En fait, c'est le successeur de John Wayne et Charlton Heston. Et pendant une dizaine d'années, il va essuyer les feux de la critique même américaine, disant que Clint Eastwood n'est pas du tout un progressiste, qui est plutôt partisan de la loi et l'ordre, du talion. Enfin, l'inspecteur Harry descend du noir en pagaille sans se gêner. Et donc, petit à petit, ce qui change la donne, c'est que Clint Eastwood commence une carrière de réalisateur.
C'est impressionnant, il a réalisé 30 films.
30 films, c'est-à-dire que par rapport à la plupart des cinéastes, c'est une grande carrière. Il y a très peu aux États-Unis, il y a peut-être que Woody Allen et quelques autres qui ont Robert Altman, qui, à mon avis, est son opposé, qui ont fait autant de films. Donc, petit à petit, c'est quelqu'un qui compte. On considère que ces films, en France, avec la grille de lecture de la nouvelle vague, de la politique des auteurs, sont des films d'auteurs. Donc, petit à petit, son côté fasciste, entre guillemets, disparaît au profit de son côté auteur. Ce qui fait que, petit à petit, on ne voit plus que l'auteur et on ne regarde plus les films avec une grille idéologique. On disparaît complètement une analyse politique au point même de faire, j'allais dire, continuellement des contresens. C'est-à-dire qu'on va finir par en faire pratiquement un humaniste, un homme de gauche, alors qu'il est toujours partisan, il le dit sans arrêt dans toutes les interviews, il est partisan de l'ordre, de la loi, de la punition des criminels. Il est pour la peine de mort pour les crimes les plus odieux. Donc on est loin d'un homme humaniste. Et en plus, c'est un individualiste forcené. C'est ce que j'ai dit dans l'article, c'est jamais la description de communauté, le peuple américain n'existe absolument pas. C'est toujours un homme seul avec des affidés, il est tout, des marginaux dont il est le porte-parole et toujours le chef. Clint Eastwood, c'est ça, c'est pas du tout quelqu'un qui incarne comme on essaye souvent de le comparer avec Ford, où il y a pas le sens d'un groupe où il y a des contradictions, où chacun a son mot à dire. Non, il y a Clint qui est devant, qui peut défendre lui aussi la veuve et l'opprimé, mais c'est toujours Clint.
sida subhaano mar shabeel xirato mar qafif hawato magacaaga ii sheeg magacaygu waa sharaf sharaf haaji weeyan aqalada xariifta dhinac banka jooga alla yaa u sheega tinta u shanleeya nahooy samsamey sabaax nuurey adoo kilkiliyo kalluun badaney adoo xajka jira xasuus badaney saaxiibta casha cashaq baa dilay ugu dambaystina aniyo geeluba ugu bannaan bixin wanagii orodnee nabad barinee maraykan waa laga soo waayey maraykan waa laga soo waayey maraykan waa laga soo waayey
maraykan My conscience is of thee Sweet land for robberies Dope smoking SUVs Red meat and army greens Fat and frills Drills and spills Eat and sleep Pump and kill Shop to your job Work to your dad Get all you can Then get in the wind Out of my face On your knees Sleep in the mansion Shout out the streets Make that cake Whip that trick Lick my swagger Suck my sick Get high, get low Get sticky, get rich Get your own show Get down, get quick You slow, you blow You broke, get fixed Terra Dome, home swag home Terra Dome, home swag home
Home swag home Maraykan wa laga soo waayey Maraykan wa laga soo waayey Maraykan wa laga soo waayey Wanagi orde nabad barine Maraykan wa laga soo waayey Maraykan wa laga soo waayey Maraykan wa laga soo waayey
Na 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 That shit was cool in English, but give me that Somali verse.
قبر يا سبحانه مر الشبيل حيرته مر قفيفة هوته مقعاقة إيشك مقعيق واشرف شرف حاجي ويان أقل هذا حريفته لنا بانك جوغة الله يا أشيقة تنت أشان ليا نهوي سمسمي صباح نوري هذو كلكليو كلوم بدني هذو حجك جيرة حسوس بدني ساحيبتا عشا عشق بيت ديلي وقدم بيستنا أنا يا قيلوبة وقوبنا بحن
On continue avec le monde diplomatique de ce mois de juin et on va parler à nouveau d'un sujet qui n'est pas dans le monde diplomatique de ce mois de juin, c'est la politique américaine, la politique des États-Unis et notamment Barack Obama. Serge Halimi a des choses à nous dire là-dessus.
Bah, ça ne figure pas. Ça ne figure pas dans le monde diplomatique du mois de juin parce que le discours de Barack Obama au Caire a été postérieur à notre publication, donc on ne pouvait effectivement pas le commenter. Bon, c'est un discours qui est important.
Il a préféré que le monde diplomatique soit
quelque chose.
Voilà, voilà.
quelque chose pour le mois suivant. Donc c'est un discours qui est important parce que il a été entendu dans le monde arabe par les musulmans et qu'il était inhabituel qu'un président des États-Unis admette en quelque sorte un certain nombre de griefs des États-Unis et prétende. Y répondre. Alors, il y a répondu avec des mots. Alors, c'est bien d'y répondre avec des mots, mais il vaut mieux ne pas y répondre seulement avec des mots. Ceci dit, les mots, comme ils comptent. Moi, je crois qu'il est bien que le président des États-Unis rappelle, par exemple, qu'il a été travailleur social dans les quartiers musulmans de Chicago. C'est vrai que c'est une différence de parcours avec son prédécesseur, qui était propriétaire d'une équipe de baseball au Texas. C'est bien de rappeler qu'il a connu l'islam sur trois continents. C'est bien de rappeler que les civilisations ne sont pas condamnées à s'affronter. C'est bien aussi, et plus inattendu, de rappeler, lorsqu'on s'adresse à l'Iran, que les États-Unis avaient, en 1954, provoqué un coup d'État contre un gouvernement démocratique. Ça, c'est peut-être une dimension qui n'a pas été assez soulignée, mais qui est très inhabituelle. C'est bien, enfin, de rappeler, ou plutôt ensuite de rappeler... Que les Palestiniens ont le droit de disposer d'un État, même si c'est moins inédit, puisque le président George W. Bush lui-même avait rappelé, ou plus exactement estimé, que les Palestiniens avaient droit à un État, et ils n'avaient absolument rien fait pour que ce droit se traduise par autre chose qu'une déclaration verbale. Et c'est sans doute encore plus important de rappeler, je crois que c'est le passage qu'on a le plus évoqué du discours de Barack Obama, que je cite « Les États-Unis n'acceptent pas l'idée que le développement des colonies israéliennes soit légitime. Ce développement viole les accords déjà signés et il nuise à la recherche de la paix. Il est temps que cette colonisation s'arrête. » Là, on a un langage qui est relativement déterminé, qui rompt avec ce qu'on entendait à Washington, en tout cas du temps de la présidence de George W. Bush. Mais il faut rappeler que, quant au fond même du discours, le fait que ces colonies doivent cesser, c'est à peu près une constante du discours politique américain depuis Ronald Reagan. Ronald Reagan l'a dit, le père de Bush, George Herbert Bush, l'a dit, William Clinton l'a dit, et à certains moments, même George W. Bush l'a dit. Là, on peut dire que le ton est plus déterminé, mais il faut voir quels seront les résultats. Jusqu'à présent, il n'y a eu qu'un président des États-Unis dans la liste que je viens de donner qui avait en quelque sorte joint le geste à la parole. C'était le père de Bush qui, en 1991, au lendemain de la guerre du Golfe, avait menacé de geler l'aide financière à Israël si la colonisation continuait. Il faut tout de même rappeler ce précédent parce que dans le discours d'Obama, il n'y a rien de précis sur ce point. Il y a des déclarations d'intention, il y a une volonté de s'adresser au monde musulman qui s'est senti agressé par les États-Unis, mais il faut tout de même rappeler que dans la plupart des cas, c'est pas le monde musulman qui a un problème avec les États-Unis, c'est les Palestiniens qui ont un problème avec la colonisation israélienne, et qu'il y aurait un danger à présenter ce problème comme d'abord d'essence religieuse. Après tout, on sait bien que les États-Unis n'ont pas de problème particulier avec l'islam dans certains cas, qu'ils ont soutenu et qu'ils soutiennent encore le régime d'Arabie Saoudite, et on sait aussi qu'au moment de l'occupation soviétique de l'Afghanistan, ils ont encouragé les islamistes fondamentalistes.
Oui, mais ça lui permet de parler à l'Iran. En englobant le monde musulman, ça permet de parler indirectement à l'Iran.
Oui, mais comme il s'agit avec l'Iran de problèmes spécifiques qui ont un lien avec le nucléaire, comme il s'agit avec les Palestiniens de problèmes spécifiques qui sont liés à la colonisation israélienne, il est important aussi, au-delà du discours un peu vaporeux sur l'entente des civilisations, etc., qui est bienvenu, puisque avec Bush on avait un peu le contraire, il va falloir traiter ces dossiers sur le fond. Donc je pense qu'il est important que ce discours ait été prononcé, qu'il y a des tas d'éléments positifs, mais qu'il ne faut pas penser que ce discours, c'est pour le moment autre chose qu'un discours. Si demain ou la semaine prochaine, des colonies israéliennes se développent, ce qui est bien possible, la question qui se posera, ce sera de savoir ce que Washington fait. Et si Washington se contente de réagir en disant « on n'aime pas ça », eh bien, on pourra se poser, être vraiment très dubitatif sur la volonté américaine de faire cesser ce genre de colonisation. Après tout, les moyens de pression des États-Unis sur Israël sont réels. Et les moyens de pression, ça ne peut pas être uniquement, en quelque sorte, le royaume du Verbe.
Et mais là-dessus, il y a deux thèses. Il y a une thèse, celle-ci, qui dit les États-Unis ont tout le pouvoir sur Israël. Il y a une autre thèse qui dit non, maintenant, Israël n'a plus besoin des États-Unis. Si les États-Unis, par exemple, interrompaient leur soutien financier, Israël est dans une situation d'autonomie et pourrait conduire sa propre politique.
Moi, je n'ai pas dit que les États-Unis avaient tout le pouvoir sur Israël. Mais j'ai dit, et c'est certain, que les États-Unis ont sur Israël un pouvoir qui va au-delà du Verbe. Donc, ils ont des moyens de pression qui sont réels, qu'il ne faut pas oublier qu'Israël est très isolé au plan international, que l'alliance avec les États-Unis est quelque chose de décisif. Barack Obama a d'ailleurs signalé qu'elle était indestructible. La question qui se pose, donc, c'est de savoir jusqu'où les États-Unis ont l'intention d'aller pour que les propos d'Obama relatifs, par exemple, à un État palestinien et à son opposition à la colonisation israélienne soient autre chose que des mots.
Depuis des dizaines d'années, nous sommes dans une impasse. Deux nations,
Barack Obama,
dotées d'aspirations aussi légitimes,
4 juin 2009,
et chacune d'entre elles lourde d'une histoire qui rend les compromis difficiles. Il est facile d'accuser, il est facile pour les Palestiniens d'évoquer leur dispersion lors de la création d'Israël, il est facile pour les Israéliens de faire état de cette hostilité constante des attentats qu'ils ont connus au cours de leur histoire au sein de leurs frontières et ailleurs. Mais si on ne voit ce conflit que d'un seul côté, nous ne verrons pas la vérité. La seule solution de ce problème consiste à réaliser les aspirations des deux côtés. Il faut deux États où les Israéliens et les Palestiniens pourront vivre en paix et dans la sécurité.
Au total, un discours qui n'emploie pas une seule fois le mot de terrorisme, qui reconnaît que le Hamas représente une fraction significative du peuple palestinien, qui concède que l'Iran a des griefs légitimes envers les États-Unis, qui souligne que la guerre d'Irak a été une guerre d'agression, une guerre choisie, pas subie par les États-Unis, comporte évidemment de nombreux aspects positifs. Et on peut espérer qu'il contribuera à isoler les islamistes les plus radicaux, partisans eux aussi de la guerre des civilisations. Mais naturellement, ce qui compte maintenant, c'est l'exécution, c'est la suite. Il ne faut pas que les États-Unis donnent le sentiment d'avoir prononcé des paroles.
Quelle a été la réaction de la presse américaine ? J'ai pas suivi.
La réaction de la presse américaine est plutôt favorable parce que, comme
vous le savez... C'est quand même un sacré revirement.
Sauf que la presse américaine a une caractéristique qu'on retrouve dans d'autres pays, c'est qu'elle n'est pas courageuse. Donc quand vous avez un président qui est très populaire, il n'est pas bien vu de s'y opposer frontalement. Si la popularité d'Obama avait été de 25% ou 30%, comme celle de son prédécesseur à la fin de son mandat, je suis sûr que les critiques auraient été plus nombreuses. Quand il y a eu des critiques, évidemment, compte tenu du poids des idées pro-israéliennes aux États-Unis, de leur organisation, du poids du lobby pro-israélien, c'était des critiques qui tendaient à dire que trop souvent Obama avait mis sur le même plan Israël, État démocratique admirable, et les Palestiniens qui sont quand même un peu des fanatiques. Mais cette critique qui reprend en quelque sorte les idées de la droite israélienne a été relativement marginale. Le discours a été plutôt bien accueilli. Encore une fois, il a plutôt été bien accueilli parce que ce sont souvent des mots qui ont été prononcés, des mots avec lesquels il est difficile d'être en désaccord ou en tout cas d'exprimer frontalement son désaccord. Dès lors que l'administration américaine prendrait des mesures plus fermes pour faire pression sur le gouvernement israélien, alors là je ne suis pas du tout sûr que la réaction d'une partie de la presse américaine serait aussi favorable.
Merci à tous, merci à toute l'équipe du Monde Diplomatique, Anne-Cécile Robert, Serge Halimi, Philippe Persson, à lire L'Europe sociale n'aura pas lieu de François Denor et Antoine Schwartz aux éditions Raison d'agir, et toujours aux éditions Raison d'agir, nous vous signalons l'excellent livre de Walter Ben-Michaels, La diversité contre l'égalité, ce qui n'est pas sans écho avec la série que nous vous présentons sur la Bolivie. Et puis ce soir à 19h, Michel Warchavski et Denis Siffer animent une rencontre débat autour du thème de l'épuration ethnique de 1948 au massacre de Gaza, continuité, rupture. C'est à 19h au CICP 21 Terre rue Voltaire dans le 11e arrondissement au métro Nation. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, la rubrique émission La Basse et J'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur labas.org. À la technique aujourd'hui, Sophie Moreno et Patrick Henry. Koy Nguyen et Raphaël Moutet ont réalisé cette émission montée par Renaud Lambert. Charlotte Perry assiste tout ce petit monde et Agnès Lebot attend vos messages au répondeur de La Basse et J'y suis au 01 56 40 37 37.